C'est partie d'une génération qui a accédé à la conscience politique et de l'actualité au moment où on parlait de la fin de l'histoire. Et la fin de l'histoire nous a été présentée enfant comme la paix et la démocratie éternelle du fait de la fin des grands conflits. Et je pense que nous sommes encore trop, particulièrement en Occident et particulièrement en Europe, marqués par cette idée que la paix et la démocratie sont éternelles. Et comme on les considère comme éternelles, on ne prête plus suffisamment attention à le fait de les préserver. Et l'expérience du Brésil, dont je vais vous parler et dont je suis spécialiste, nous montre à quel point les démocraties sont précaires, fragiles et nécessitent une réflexivité constante sur leur fonctionnement et les manières de les protéger. Alors, la question qui m'a été posée par Émilie au moment où elle m'a invitée à participer à ce colloque était la suivante. Pouvait-on conclure à partir de l'expérience brésilienne au fait qu'un dispositif trop tardif de justice transitionnelle pouvait avoir l'effet inverse de celui qui était escompté ? Et il est vrai que la chronologie de l'histoire récente du Brésil est assez déroutante, puisque entre 2012 et 2014 s'y est réunie une commission nationale de la vérité qui était chargée, après 27 ans après le début de la transition démocratique, de revenir sur la période de la dictature qui avait duré de 1964 à 1985, qui était ce qu'on appelle une dictature de sécurité nationale, c'est-à-dire une dictature de guerre froide, autoritaire, militariste, anticommuniste et répressive, qu'on a connue également dans les pays voisins, le Chili, l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay, et qui avait duré une durée remarquable, très longue au Brésil, de 21 ans. Lorsque la commission vérité brésilienne se réunit, donc très tardivement, le Brésil est sous le second mandat de la présidente Dilma Rousseff, qui avait été élue pour la première fois en 2010, dans le premier mandat, pardon, de la présidence Dilma Rousseff, élue en 2010, et qui était elle-même une ancienne membre d'une organisation de guérilla qui avait été emprisonnée et torturée à l'âge de 20 ans, 21 ans, au début des années 70. Les travaux s'ouvrent donc en 2012. Dilma Rousseff signe l'acte d'ouverture de la commission en présence des 5 anciens présidents de la Nouvelle République. C'est un acte très officiel, très symbolique. Et ces travaux donc, se déroulent entre mai 2012 et décembre 2014. Ce sont des travaux qui sont marqués par l'implication importante d'historiens, d'avocats, qui travaillent à partir d'archives qui sont expressément obtenues par la commission, qui demandent à des centaines de témoins de venir porter leur parole, 1500 victimes ou membres des familles de victimes, mais également 120 anciens agents de l'État, policiers ou militaires, dont une grande partie s'en tient au silence, hein, mais certains, rares, donnent leur récit des événements. Ça, c'est ce qui évoque la question togolaise. Hein, dans quelle mesure on peut obtenir la parole des bourreaux quand on n'a rien à offrir en échange et quand on refuse une quelconque dimension punitive, qui était le cas du Brésil, comme je vais le souligner. Donc des travaux qui sont marqués par une consultation d'archives, par des témoignages, par la visite de locaux et par l'établissement d'un récit officiel pour la première fois des graves violations des droits humains commis sous la dictature et en particulier une grande innovation, la liste de responsables nommément cités, 376 responsables de disparitions, d'assassinats politiques et de graves atteintes aux droits humains. La commission débouche un an et demi plus tard sur le rendu d'un rapport, donc ce rapport qui établit un récit pour la première fois officiel et dont Dilma Rousseff reçoit le texte sur la photo que vous voyez. En parallèle, des instructions sont ouvertes par le parquet qui visent à accompagner les recherches de la commission Vérité, bien que la commission n'ait aucune compétence judiciaire. Il s'agit d'une commission qui vise à établir un récit, à établir des responsabilités, mais pas à permettre l'ouverture véritablement de procès, puisque les agents de l'État sont protégés par l'amnistie de 1979, amnistie qui avait été promulguée par les militaires et qui n'a jamais été remise en cause au Brésil. Le rapport de la commission inclut des recommandations très diverses, dont sont mentionnées des actions pédagogiques, des actions de démilitarisation de la police brésilienne, et également une remise en cause de l'amnistie. Mais au moment où elle reçoit ce rapport, sur les images que vous voyez là, Dilma Rousseff, immédiatement, c'est sa première phrase au moment du rendu du rapport, elle indique qu'il n'y aura pas de remise en cause de l'amnistie et qu'il n'y aura pas d'ouverture de procès. Donc ça fait partie, là encore, hein, quand on parle de l'importance des recommandations pour savoir quel est le poids des commissions vérité, et je vais revenir sur ce point-là, il a été clair que la commission vérité n'a eu aucune importance dans l'application de recommandations, et encore moins de recommandations judiciaires. Voilà, je vous montre simplement cette image-là, parce que je reviendrai sur ce personnage-là, c'est l'un des principaux, à la fois tortionnaires et responsables des opérations de répression dans la ville de Saint-Paul, qui s'appelle le colonel Carlos Alberto Brilhante Ustra, c'est un mot qui a été coupé au PowerPoint, là, et dont on va revenir parce que c'est un personnage central, du second volet qui explique ma présence ici en particulier, c'est-à-dire l'élection il y a trois semaines, et donc finalement moins de 4 ans après la conclusion des travaux de la commission Vérité, d'un capitaine de réserve parachutiste de l'armée brésilienne, Jair Bolsonaro, à la présidence de la République brésilienne, un personnage d'extrême droite qui, en plus d'afficher des positions très ouvertement homophobes, misogynes, racistes et autoritaires, est un nostalgique affirmé de la période dictatoriale, non pas sur un argumentaire qu'on avait pu connaître pendant la Nouvelle République, c'est-à-dire un argumentaire selon lequel la dictature brésilienne n'était pas si condamnable parce qu'elle n'avait pas été si répressive, ce qui se discute, mais qui est une réalité sur la létalité de cette dictature, et j'y reviendrai. Bolsonaro n'a pas ce discours-là, au contraire, il exalte la dictature militaire dans ce qu'elle a eu de répressif, et il exalte en particulier les tortionnaires, les membres de les répressions, et particulièrement leur porte-parole depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire le personnage d'auparavant, c'est-à-dire le colonel Ustra, qui a écrit un certain nombre de livres où il revendique la répression politique dans toute son atrocité. Et Ustra est, de manière extrêmement claire, le héros de Bolsonaro et de tout son entourage. Et ce n'est pas un détail. C'est-à-dire que là, vous voyez Bolsonaro, dans l'enceinte du Congrès, montrer tout souriant le livre, le dernier des livres, avant son décès du colonel Ustra. Et cette présence de Ustra dans la campagne n'est pas du tout anecdotique, elle est centrale, elle a fait l'objet d'un énorme processus de marketing et elle a été la figure de proue en fait d'une réhabilitation de la dictature et d'une réhabilitation de la dictature comme moment d'ordre et de répression du grand mal du Brésil, selon l'équipe qui vient d'arriver au pouvoir, c'est-à-dire la gauche marxiste, la gauche libérale sur les questions de mœurs, qui est considérée comme le grand ennemi de ce camp au pouvoir. Quelques éléments pour vous donner une idée, mais ils sont innombrables. Hein. Vous voyez à la gauche de l'image l'un des fils de Bolsonaro, qui est député fédéral et qui exhibe un t-shirt qui se voit beaucoup dans la rue au Brésil actuellement, c'est-à-dire « Ustra vivant ». Même t-shirt qui était exhibé dans un meeting de Jair Bolsonaro pendant la campagne. C'est pas un détail, cette figure de Ustra et la présence de la répression au centre de la campagne et du programme politique de Jair Bolsonaro. Vous le savez peut-être, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent au Brésil, c'est à Ustra que Jair Bolsonaro a dédié son vote en faveur de l'impeachment de Dilma Rousseff en avril 2016. Donc c'est à lui qu'il a dédié son vote dans l'enceinte du Congrès. Et c'est également, par exemple, le grand idole du vice-président qui a été élu, qui est un général de l'armée de terre, qui est un général d'extrême droite, et qui aussi fait partie de toute cette communauté d'extrême droite qui considère que la dictature était un âge d'or, et que c'était un âge d'or parce que ça a été une période particulièrement répressive pour l'opposition de gauche. Donc il y a à la fois une héroïsation, une nostalgie de la dictature et une conformité de vue, puisque ce camp au pouvoir a l'objectif de reproduire de manière plus radicale et plus systématique le projet de la dictature, c'est-à-dire la mise à mort politique de la gauche, hein, et en particulier de ce qu'ils considèrent être les résidus de marxisme au Brésil, eux-mêmes considérant que le Brésil n'est pas une exception et que le monde entier est contaminé depuis 30 ans par un marxisme culturel qui a produit tout un tas de mots, l'idée d'un changement climatique, l'idée des droits de l'homme, l'idée du droit à la diversité, des orientations sexuelles, etc. Donc c'est un système idéologique que je ne vais pas développer ici, mais qui a une continuité avec la période de la dictature. Donc la question que je pose ici est peut-on conclure à l'inanité des travaux de la commission Vérité ou un éventuel effet contre-productif ? Alors d'abord, rapidement, il faut dire, pour ne pas réduire artificiellement l'analyse de l'actualité à l'objet de la présentation, que l'ascension et la victoire de Jair Bolsonaro est le résultat d'un processus général qui va au-delà de la nostalgie pour la période dictatoriale. D'abord, du fait du terrain particulier d'une démocratie fragilisée au Brésil depuis 5 ans. Alors, je vais passer assez rapidement parce que ce n'est pas l'objet de ce qui nous occupe, hein, mais en fait, la démocratie brésilienne est en crise depuis 5 ans. Elle est en crise dans un contexte de grave crise économique, dans un contexte de ruine, de faillite de l'État qui a été aggravée par tout un tas d'événements, le coût en particulier d'événements sportifs massifs qui sont survenus à un moment catastrophique pour les finances de l'État et qui ont aggravé une crise économique qui était largement extérieure au Brésil. Un contexte également de détournement d'une offensive judiciaire qui est une offensive de lutte contre la corruption dans les milieux politiques, mais qui a été progressivement mise au service d'un camp politique et qui a du coup très fortement déstabilisé la démocratie brésilienne au point de créer le contexte favorable à un coup d'État parlementaire qui a renversé Dilma Rousseff en 2016. Et plus généralement, d'une offensive d'une droite qui était normalement une droite traditionnelle, mais qui est sortie des chemins de la démocratie en voulant presser l'alternance et en voulant accélérer cette alternance politique et revenir au pouvoir, à manipuler un certain nombre de mécanismes démocratiques et à fragiliser la démocratie brésilienne. Je suis désolée d'aller très vite, mais je voudrais aller au cœur de notre sujet, c'est-à-dire la justice transitionnelle. Le mouvement lui-même autour de Bolsonaro est lui aussi plus large qu'un mouvement simplement de répétition, de nostalgie de la dictature brésilienne. D'abord, c'est un mouvement transnational. Ce n'est pas une exception, Bolsonaro, dans tout un tas de ses imaginaires et de son projet politique. C'est un phénomène qu'on voit surgir dans plein d'endroits du monde où l'extrême droite soit est en phase d'ascension, soit arrive au pouvoir. Et on y retrouve tout un tas d'éléments communs, les comparaisons entre les membres les plus radicaux de l'équipe de Donald Trump l'équipe de Bolsonaro sont assez marquantes, hein. Le rejet du multiculturalisme, le rejet de la diversité des orientations sexuelles, je l'ai dit, le rejet de l'intromission d'organisations internationales, la nostalgie d'un ordre religieux traditionnel, bref, une réaction conservatrice à 70 ans de ce qu'on pourrait considérer comme des progrès civilisationnels. Et cette nouvelle droite, elle est non seulement cousine, mais elle est articulée et elle utilise dans plein d'endroits du monde les mêmes méthodes. Bolsonaro a été largement élu par les méthodes d'utilisation des données personnelles des réseaux sociaux et de propagande ciblée financée par des institutions internationales qui ont permis l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. Si vous ne connaissez pas ces mécanismes et si ce que je vous dis ne vous évoque rien, je vous conseille d'aller voir sur Internet un documentaire qui est passé sur Arte il y a 3 semaines, qui s'appelle « Comment Donald Trump a manipulé l'Amérique » et qui est un documentaire absolument éclairant sur les mécanismes très précis qui ont permis de manipuler les données de 87 millions d'Américains et de permettre la victoire de Trump aux élections présidentielles. Donc, traduction brésilienne de cette nouvelle droite, diversité des dimensions de cette droite brésilienne, hein, qui ont d'autres racines que celles qui s'ancrent dans la dictature, en particulier des racines religieuses d'ascension des évangélismes conservateurs au Brésil. Et enfin, pourrions-nous conclure, pour toute une partie des 57 millions de Brésiliens qui ont voté pour Donald Trump il y a 3 semaines, la nostalgie de la dictature n'est pas forcément centrale, et donc elle ne résume pas ce qu'est ce mouvement. Pourtant, il existe une évidente filiation entre ce camp politique et non seulement la dictature, mais les secteurs les plus radicaux de la dictature. D'abord, la trajectoire de Bolsonaro lui-même. Bolsonaro est un capitaine parachutiste qui a été 10 ans dans l'armée de terre et qui a été expulsé de l'armée de terre parce qu'il entreprenait de poser des bombes artisanales pour réclamer l'augmentation des soldes des jeunes officiers. Et c'est un personnage qui est rentré en politique relativement jeune et qui a immédiatement été embrassé par des réseaux d'extrême droite militaire. Donc on est tout début des années 90, c'est le tout début de la Nouvelle République, on est vraiment en période de jeune transition démocratique, et les réseaux, je vais y revenir, militaires, sont extrêmement actifs pour maintenir une tutelle sur le régime démocratique, pour maintenir des zones de pouvoir qui échappent au pouvoir civil, et pour empêcher toute forme de mise en jugement des agents de l'État qui ont été actifs sous la dictature. Et très rapidement, Bolsonaro devient le porte-parole au sein du Congrès. Il est très rapidement élu député fédéral en 92. Il devient le porte-parole au sein du Congrès de ces réseaux. On observe d'ailleurs, donc c'est des réseaux de ce qu'on appelle la ligne dure au Brésil, donc des réseaux d'ultra-droite au sein de l'armée, dont on voit l'affiliation, puisque c'est des réseaux qui, avec pour slogan un slogan nazi, Brasil acima de tudo, qui est repris, ça veut dire le Brésil au-dessus de tout, qui est repris de manière consciente à Deutschland über alles en 69 par un réseau d'extrême droite et qui est immédiatement, quand il rentre en politique, utilisé par Bolsonaro. Et c'est le slogan de Bolsonaro jusqu'à aujourd'hui. Hein, donc un slogan qui n'est pas nazi, mais qui est lié à l'inspiration que suscitait chez des militaires d'extrême droite dans les années 60 le nazisme. Hein, donc il y a une vraie continuité jusqu'à aujourd'hui. Ces groupes qui ont porté Bolsonaro dans les années 90, en fait, n'ont jamais disparu, n'ont pas disparu après la dictature et n'ont jamais disparu jusqu'à nos jours. Et ils ont toujours été extrêmement actifs dans la guerre de la mémoire autour de la dictature militaire, c'est-à-dire dans le fait d'affronter systématiquement tous les discours des opposants, tous les discours des victimes, tous les discours des familles de victimes et assez rapidement tous les discours des scientifiques par un discours adverse, point par point. C'est quelque chose qu'on voit aussi beaucoup en Argentine, l'utilisation des mêmes mots et du même rythme pour affronter la mémoire, qui est une mémoire militante ou même une mémoire scientifique. Donc, il y a énormément d'exemples, hein, mais par exemple, le principal manifeste de reconnaissance des graves atteintes aux droits humains qui est publié en 1985 par un grand collectif d'avocats qui s'appelle Brasil Nunca Mais, plus jamais le Brésil plus jamais, qui est un grand texte qui recense les techniques de torture, les méthodes de répression politique, a pour écho, 2 ans après, le texte d'un militaire qui s'appelle Brasil Sempre et qui est la négation point par point de tout ce qui avait été établi par Brasil Nunca Mais. Et ça, on pourrait en faire la chronologie, en fait, tout au long de la Nouvelle République, c'est-à-dire la vivacité de réseaux d'extrême droite militaire de la réserve, parce que les militaires de l'active n'ont pas le droit de parler, de s'exprimer sur ces sujets-là, mais dont on a à peu près la conviction qu'il y a un grand écho dans l'armée d'active pendant toute cette période-là. On a tout un tas d'éléments qui nous mènent à penser qu'il n'y a pas eu de discontinuité de l'activité de ces réseaux. Et c'est des réseaux qui n'ont jamais été véritablement réprimés par le pouvoir civil pendant la Nouvelle République, qui ne s'est jamais trouvé en situation d'avoir le pouvoir, l'autorité pour réprimer ces réseaux-là et pour véritablement condamner ou limiter l'espace de ceux qui les tenaient. Donc il y a alors je peux vous montrer un des principaux groupes d'activistes, c'est le groupe qui s'appelle Ternum, Terrorisme Nunca Mais, donc là encore un écho de Brasil Nunca Mais, Tortura Nunca Mais, et qui est un groupe qui est actif depuis la fin des années 90 sur Internet, extrêmement actif jusqu'à nos jours, et au centre de la campagne de Bolsonaro actuellement, qui est vraiment l'un de ses piliers à l'intérieur de l'armée. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on a une filiation évidente, Bolsonaro lui-même, son entourage, lié à des réseaux qui sont très actifs. Mais la question, ce qui se pose, c'est comment est-ce que ce discours-là, qui finalement n'a jamais disparu, le discours n'est pas une aberration dans la situation brésilienne, comment est-ce qu'il peut avoir un écho si grand dans la société? Comment est-ce que 30 ans après le retour d'une démocratie, on peut avoir l'acceptation par un électorat d'un discours si clair. Alors attendez, je vous passe ça. Comment expliquer l'adhésion ou l'amnésie d'une si grande partie de la population? Alors il y a plusieurs éléments pour expliquer ça. D'abord, le passé dictatorial n'a été que très brièvement au centre du débat public au Brésil, c'est-à-dire vraiment dans les années qui suivent la chute de la dictature, entre 85 et 87, on pourrait le dire, parce que assez rapidement, L'absence de procès, l'absence de commission vérité, l'absence de toute forme en fait de justice transitionnelle et la permanence d'une amnistie fait que le débat public se tourne vers d'autres questions, se tourne vers l'établissement d'une constitution, les débats sur la constitution 88, sur la résolution des problèmes économiques, sur la limitation de l'inflation, et donc se tourne vers le futur ou s'imagine se tourner vers le futur et ne se tourne pas vers la période de la dictature. Autre élément, la dictature brésilienne a été particulière parce que sa répression a connu une faible létalité. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup moins de morts que dans des pays voisins. Il y a eu entre 450 et 550 morts officiellement reconnus, des dizaines de milliers d'exilés, de torturés, d'emprisonnés, mais une stratégie d'absence d'extermination physique de l'opposition. Qui a eu pour conséquence qu'il y avait moins de familles qui avaient été touchées par des disparitions ou par des assassinats politiques, et donc moins de familles qui étaient mobilisables pour entreprendre la lutte pour une justice transitionnelle, quand on compare, par exemple, à l'Argentine. Troisième élément qui explique l'amnésie d'une si grande partie de la population, c'est la faiblesse, depuis 1985, des pédagogies publiques, c'est-à-dire le fait d'avoir un discours, comme il n'y avait pas eu de commission vérité, il n'y avait pas eu véritablement de retour vers ce passé-là, et donc il y avait eu très peu de discours publics autour de ce qui s'était passé. Il y avait eu des commissions de réparation, il y a eu deux grandes commissions de réparation, hein, en 1995 et en 2001, pour les familles des disparus et pour les gens qui avaient été touchés d'une autre manière par la dictature, mais ça a été des commissions qui étaient strictement tournées vers les victimes et qui n'avaient pas l'ambition d'un discours public plus général. Et enfin, dernier élément, tout ce contexte-là, hein, tout ça est très cohérent, hein, a été également accompagné par une faible modification des programmes scolaires et les programmes scolaires en fait s'arrêtaient très tôt dans l'histoire du XXe siècle, et avec le fait que la dictature était abordée tardivement, peu, et de manière en général extrêmement peu approfondie dans le secondaire, différemment dans le supérieur, mais le supérieur ne touche pas une majorité de la population. Donc on se retrouve avec un camp d'extrême droite qui a toujours été nostalgique de la dictature, qui n'a jamais été vraiment réprimé, et qui prospère dans une société qui n'a pas fait l'objet d'une concentration du discours public, d'une pédagogie, d'un enseignement de ce qu'a été la réalité de la violence sous la dictature, avec un potentiel de familles directement touchées qui est extrêmement petit en rapport à l'ampleur de la population brésilienne. C'est dans ça que se réunit, c'est dans ce contexte-là déjà que se réunit la commission vérité en 2012. C'est une commission vérité qui, d'emblée, a une audience très réduite, en fait, quand elle se réunit en 2012. Ceux qui parlent de la commission vérité, ceux qui s'y intéressent, c'est les familles des victimes, c'est des gens qui sont déjà très informés, c'est des journalistes qui sont déjà très informés, c'est des avocats qui sont déjà très informés. Et on va le voir, c'est aussi des militaires, mais il n'y a pas d'écho considérable dans la société en général. La commission en fait se déroule entre 2012 et 2014 dans une société qui de plus en plus est concentrée vers d'autres problèmes. C'est le début de la crise démocratique dont je vous ai parlé en début de présentation, qui est tournée vers les problèmes de crise économique, vers les problèmes de corruption, vers le problème de bipolarisation politique, et de ce fait qui accorde extrêmement peu d'attention à ces travaux de la commission vérité. La chronologie est extrêmement importante parce que si vous voyez la chronologie, je vous ai dit, c'était mai 2012, décembre 2014. Dilma Rousseff, elle cherche à être réélue en octobre 2014. Elle va être réélue en octobre 2014. Et en fait, l'année 2014, qui est l'année de la grande activité de la Commission, c'est une année de campagne électorale. De campagne électorale extrêmement disputée, extrêmement bipolarisée, extrêmement violente dans une démocratie en crise, et où il va y avoir une appropriation partisane des travaux de la Commission Vérité. C'est-à-dire que l'image, en particulier de Dilma Rousseff, comme opposante politique, va être utilisée à droite pour dénoncer la candidate et utilisée à gauche pour revendiquer cette image-là. Ce qui va avoir pour conséquence, en fait, que le travail et la production mémorielle de la Commission Vérité va être interprétée dans le débat public comme quelque chose de gauche, comme quelque chose qui n'est pas quelque chose de la nation brésilienne et quelque chose qui appartient à un camp. C'est exactement le discours des gens de droite qui excèdent la discrédité en disant que la commission vérité, c'est la vérité d'un camp et ce n'est pas la vérité du Brésil. Et donc, la chronologie va aider à rentrer, à faire rentrer cette idée dans l'espace public, ce qui fait que très rapidement, en fait, il va y avoir l'idée que les travaux de la commission Vérité, c'est des travaux de gauche, et que quand on est de droite, on est contre. Hein. Et c'est quelque chose qui est justement le discours de la droite autour des travaux de la commission Vérité, c'est-à-dire le fait que c'est une vérité, c'est la commission d'une vérité, hein, c'est la grande expression, la commission d'une vérité, l'une des deux vérités, qui va être de ce fait l'objet d'une opposition très très forte de l'extrême droite, et en particulier de secteurs militaires qui vont s'opposer à plein de moments des travaux de la commission à ses conclusions et évidemment à ses recommandations. Alors je ne vais pas vous donner les exemples, mais il y a eu des manifestations, y compris publiques. Alors là, c'est une manifestation devant le club militaire qui avait pris position en 2012 contre la commission Vérité, contre ses travaux, contre l'hypothèse d'une judiciarisation de ses travaux. Donc il y a eu une manifestation de familles de disparus devant le club militaire. Donc ça montre bien à quel point, dès les débuts des travaux de la commission, et ça n'a cessé d'augmenter, les travaux ont souffert de la dépolarisation de la société brésilienne. À cette époque-là, Bolsonaro est député déjà, hein, et il demande à faire partie de la commission des droits de l'homme du Congrès pour pouvoir suivre et décrier systématiquement tous les travaux de la commission Vérité. Ce qu'on peut conclure de tout ce que je vous ai dit, c'est que ce mécanisme-là, qui est le fait d'une transition d'emblée incomplète, une transition qui n'a fait l'objet d'aucune pédagogie publique, aucun discours public, aucune reconnaissance publique de responsabilité, qui a laissé prospérer une mémoire d'extrême droite, qui a laissé prospérer un discours d'extrême droite, une mobilisation de réseaux d'extrême droite, et qui produit une commission Vérité dans un moment où la société est particulièrement bipolarisée autour d'un parti qui se revendique comme étant le parti de l'opposition sous la dictature, eh ben ça produit des effets pervers, effectivement, et ça produit le fait que la commission Vérité n'est pas responsable de ce qui se passe actuellement, qui permet de comprendre à quel point il peut y avoir une centralité de la réhabilitation de la dictature militaire dans le nouveau pouvoir. Alors, c'est des éléments que je peux vous dire sur le nouveau pouvoir, hein, qui a prévu une réhabilitation mémorielle, une révision bibliographique dans les universités, une réappellation officielle, de ne plus pouvoir appeler le coup d'État un coup d'État, mais de pouvoir l'appeler avec d'autres appellations, une révolution ou un mouvement. Les archives de la commission Vérité sont menacées. Les membres des archives nationales savent déjà que probablement les archives ne vont plus être à disposition du public. Donc l'idée de revoir le discours sur la période de la dictature est au centre du projet du nouveau pouvoir. Et on peut donc en conclure que la commission Vérité ne porte pas l'entière responsabilité de cette situation. Elle est l'héritière d'une situation de transition incomplète. Elle a rencontré une poussée internationale de l'ultra-droite dont, évidemment, elle n'est pas responsable. Mais elle a été trop tardive, dépourvue d'une audience large. Et elle a été réunie dans un contexte de bipolarisation, d'ascension de la droite et d'élections présidentielles qui ont nié à la possibilité d'une appréhension collective de son travail, c'est-à-dire justement ce dont l'extrême droite l'accusait, c'est-à-dire d'être la commission de la vérité de la gauche et pas de la commission de la vérité du Brésil. Pour finir, je voudrais parler de quelque chose qui est un tout petit peu un pas de côté, qui va me durer 30 secondes, je crois que j'ai parlé beaucoup trop longtemps, mais je voudrais simplement dire quelque chose. En février 2018, donc il y a 9 mois, le commandant en chef de l'armée de terre, Eduardo Villas-Boas, a ouvert une intervention militaire dans l'État de Rio de Janeiro, qui est l'autorisation par l'État fédéral que les forces armées s'occupent de questions de sécurité urbaine, qui est actuellement le cas à Rio de Janeiro. Actuellement, c'est l'armée qui s'occupe de la sécurité urbaine dans l'État, dans une situation d'augmentation des violences urbaines. Et Villas-Boas, dans une de ses premières interventions au sujet de cette intervention militaire, il a dit que les forces armées étaient d'accord pour intervenir à condition qu'on ne leur remette pas une commission vérité dans 30 ans sur ce qui allait se passer. Et c'est très intéressant qu'il ait dit ça, parce que ça pose la question des violences qui font l'objet ou qui ne font pas l'objet de commissions vérité. Et actuellement, au Brésil, j'en parlais avec certains d'entre vous à midi, il y a 60 000 morts par an d'homicides, dont une écrasante majorité sont des jeunes noirs des périphéries, pour la plupart des hommes, et aussi bien qu'une partie d'associations parle de génocide de la jeunesse noire au Brésil. Et sur ces questions-là, il n'y a pas de commission vérité. Ça représente plus d'homicides par an que la Syrie en guerre. Donc c'est un pays qui n'est pas un pays en guerre, mais qui est un pays qui connaît une violence absolument considérable sur une partie de la population. Sur ces éléments-là, il n'y a pas de commission vérité, il n'y a pas de réconciliation, il n'y a pas de discours public, il n'y a évidemment pas de réparation. Et une partie de ce qu'est le Brésil aujourd'hui est la possibilité d'avoir quelqu'un qui réhabilite la dictature militaire, mais qui est aussi un apologue de la violence policière et du racisme de la société brésilienne. C'est aussi le fait que sur certaines grandes violences sociales, il n'y a même pas la question qui est posée d'une possibilité de vérité et encore moins de réparation et de justice. Merci beaucoup.